Bonsoir, Jati.
Bonsoir, Christian, bonsoir tout le monde.
Je ne sais pas qui est le plus ému des deux, en tout cas, c'est mon cas, je puis dire. Donc, merci au Musée d'Appert d'organiser cette rencontre et de nous réunir. J'ai lu récemment Les Rétifs de Gerty Damburi. C'est son premier roman, comme vous venez de le dire. C'est publié aux éditions du Manguier. Donc on va parler de ce livre, on va parler du thème du livre, de ses personnages. On a la chance d'être ici en bonne compagnie pour en parler. Gerty Damburi, c'est une femme libre quand on la lit, et ça fait plaisir. C'est un roman qui a multiples prolongements possibles. Alors on va voir, on va avoir cette conversation et puis évoquer un certain nombre de thématiques importantes. Je pense à une qui est dans l'actualité. Je trouve que le 17 octobre 61, il s'est passé un drame important à Paris. François Hollande en a parlé et a reconnu que l'État français était pour quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a des résonances, bien qu'on soit en Guadeloupe, en mai 67, pendant trois jours, et que cet épisode historique, triste, on en sait peu de choses quand on est de ce côté-ci de l'Atlantique. Et le roman s'en empare pour aller dans une intimité d'une famille et comment une petite Émilienne qui est à l'école et va se poser des questions. Je vais vous lire juste l'avant-propos, qui est un cadrage historique qui rappelle ces choses-là. Vous les connaissez pour la plupart d'entre vous, mais tous les lecteurs ne le connaîtraient pas. Et ensuite, Gerty, on entamera notre conversation. L'avant-propos dit ceci sur une page. Dès le 24 mai 1967, après l'échec des pourparlers entre le patronat et les syndicats du bâtiment, des débrayages s'étendent à tout le secteur. Des négociations débutent à la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre. Le 26 mai, ces négociations butent sur l'obstination d'une partie du patronat qui refuse toute augmentation, tandis que certains dirigeants se disent prêts à l'accorder. Une foule se masse devant les bâtiments, se tiennent les négociations et très vite la situation dégénère. Le préfet, Pierre Bolotte, donne aux forces de police l'ordre de tirer sur les manifestants. Aux environs de 15 heures, les premiers corps s'affaissent sur la place de la Victoire. La colère qui grondait déjà éclate, donnant lieu à de violentes échauffourées dans le centre de la ville. Des kipis rouges supplémentaires sont dépêchés en Guadeloupe et, sillonnant la ville durant toute la nuit, procède à des tirs sans sommation et des arrestations. Le nombre exact de morts dans la population civile demeure encore inconnu, car ces événements sont classés secret défense jusqu'en 2017. Après une annonce officielle de 5 morts, on atteint aujourd'hui le chiffre, toujours officieux, mais révélé par des officiels, de 87 morts. Les Rétifs, pourquoi ce titre, Gerty ?
Parce que j'ai l'impression que c'est le mot qui nous définit le mieux, les Guadeloupéens. J'ai dit que nous sommes rétifs. Nous ne sommes pas désobéissants, nous ne sommes pas violents, nous ne sommes pas susceptibles. Toutes sortes de qualificatifs qu'on nous attribue, d'ailleurs. Nous ne sommes pas Guada, hein, parce que ça, c'est la nouvelle expression pour dire que nous sommes toujours un peu brusque, jamais tout à fait d'accord, et toujours... Non, nous sommes rétifs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas a priori prêts à accepter n'importe quoi. Voilà. Et donc, au départ, je n'avais pas du tout pensé à ce titre. Il y avait un premier titre qui était la dernière phrase d'Emilienne, à son père, qui était « J'attends toujours que tu sonnes ». Voilà. Alors j'avais choisi ce premier titre, et puis au bout d'un moment, je me suis dit « Ça fait littérature française contemporaine, voilà, pas terrible ». Après, j'avais choisi « Désobéissance ». L'éditeur m'a dit que ça prenait trop de place sur la une. Alors il n'arrivait pas à faire entrer toute désobéissance sur la première page. Et je me suis dit, il faut trouver quelque chose qui dise la désobéissance, mais qui en même temps dise, voilà, cette petite chose, c'est-à-dire Souvent, des gens m'ont parlé de la Guadeloupe, des gens qui étaient de passage. Au début, je me fâchais. Oh, ouais, les gens chez toi, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils ne sont pas agréables, ils ne sont pas accueillants, etc. Et puis, je leur disais toujours, mais allez plus loin. La première rencontre est peut-être un petit peu comme ça. Là, la personne n'a pas forcément envie de... Elle vous vend un pain, mais elle n'a pas envie de sourire. Elle a le droit de ne pas avoir envie de sourire en vous vendant un pain. Mais si... Vous lui dites une petite phrase, quelque chose qui fasse tomber la glace, elle est formidable. Derrière, elle est extrêmement généreuse et accueillante. Mais c'est ça, c'est réticent, rétif. Voilà. Comme un cheval qui se cabre. Et l'histoire explique que nous soyons rétifs.
L'histoire du roman ou l'histoire avec un grand âge ?
Ah ben l'histoire avec un grand H, mais comme je ne suis pas historienne, peut-être que... voilà. Mais tout le monde sait que nous avons une histoire et que cette histoire est présente dans toute notre littérature. Et dans ce roman, l'histoire revient avec toujours ce leitmotiv qui dit « Eh oui, Philippe Issa, c'est-à-dire, oui, laisse tomber, arrête de parler de ça, ce sont des vieilles histoires, ce sont des vieilles histoires, ne reviens pas sur ça, ce sont de vieilles histoires. » Mais les personnages, en particulier un des personnages les plus âgés qui est décédé à 98 ans, elle dit ça. Mais il faut quand même qu'ils sachent ce qui s'est passé avant pour qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer maintenant. Voilà.
Oui, un des personnages mort à 98 ans, parce que les personnages morts parlent dans ce roman. C'est le premier roman sur mai 67.
Oui. C'est le premier roman sur mai 67 et en réalité, je me suis décidée à écrire ce texte pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a environ en 98-99, j'ai fait un spectacle avec avec mon frère, un de mes frères, j'ai plusieurs frères, mais mon frère le plus cher au cœur, René, nous avons fait un spectacle pour notre père. Parce que mon père, qui était mort en 90, disait toujours, oui, j'ai des enfants artistes, celui-là est pianiste, l'autre est percussionniste, il y a une chanteuse, celle-là écrit, et vous ne faites jamais rien ensemble. Alors un jour, on a décidé de faire quelque chose ensemble, et ça s'appelait Cour lointaine. Donc ça parlait déjà de la cour, et qui pour moi est importante dans nos pays. C'est un moment où on en parle de la... De ce que représente la cour, le fait de se retrouver assis dans une cour le soir ou souvent au coucher du soleil, etc. Et donc, quand nous avons fait ce texte, j'ai écrit un premier poème. Nous avons contourné les places, pressentant le sang sur les grands plats, sur les grands voies, etc. Et c'est l'histoire d'un frère qui vient chercher sa petite sœur à l'école. Et c'est ça qui s'était passé. Mon frère, avec qui je jouais, était venu me chercher à la sortie des classes parce que ça tirait dans tous les sens et qu'en fait nous étions couchés sur le sol. Nos institutrices nous avaient dit vous couchez éloignez-vous des fenêtres, mettez-vous sur le sol, et elle ne voulait pas nous laisser partir chez nous parce qu'on ne savait pas ce qui se passait dehors. Et donc mon frère était venu me chercher et il m'a fait passer par des tas de petites rues, il m'a peut-être à moi sauvé la vie, voilà, je lui dois ça. Et donc il y avait ce premier texte. Et un jour, il y a à peu près 5 ans, 6 ans, comme ça, il y a la revue Études Guadeloupéennes qui a sorti un numéro spécial sur mai 67, où des acteurs de mai 67 s'exprimaient. Et à la fin, il y avait un critique qui s'appelle Michel Hippou, qui est un critique guadeloupéen, critique littéraire guadeloupéen, prof de littérature à l'université, qui a dit il n'y a aucun texte sur mai 67, il n'y a aucun, à part le texte de Sonny Rupert, Chien Bar et Moi, qui raconte l'histoire du chien qui avait attaqué un homme à Bastère un peu avant, au mois de mars. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de récit. Et donc je lui avais écrit en lui disant voilà, j'ai écrit ce poème-là, tiens, je te l'envoie. Et puis ça me travaillait vraiment. Et quand il y a eu les événements de 2009 en Guadeloupe, alors un peu curieuse, évidemment, j'ai pris un billet d'avion, je suis allée voir ce qui se passait dans ce pays où on disait « ça ne sera plus rien, les gens sont là, ils achètent, ils vont dans les supermarchés, c'est tout ce qui les intéresse, acheter, boire du champagne, avoir des grosses bagnoles, etc. » Et puis tout d'un coup, en 2009, paf, il se passe quelque chose. Alors je dis « je vais y aller, je vais aller voir ». Et au moment où il s'est passé ce mouvement de 44 jours en Guadeloupe, cette idée de mai 67, cette histoire de mai 67 est revenue sur toutes les bouches, dans toutes les têtes. Et moi, j'étais là avec, avec mes souvenirs, avec mon désir aussi d'en parler. Et voilà, ça a été le premier roman.
Les Rétifs, c'est l'histoire d'Emiliane. C'est une petite fille à l'école élémentaire, l'école primaire, et elle est chez elle, son père n'est pas là, et puis elle se demande si son père va lui dire qu'est-ce qui se passe dans cette ville de Pointe-à-Pitre.
Pas vraiment.
Pas vraiment.
au départ, Emiliane, l'inquiétude d'Emiliane, c'est sa maîtresse d'école. Alors, la maîtresse d'école d'Emiliane a été inspectée. En fait, l'histoire commence comme ça. Il y a une inspection, surprise. Il y a un monsieur, un jour, qui arrive, un monsieur blanc avec un costume. Et ce monsieur s'assied au fond de la classe, il inspecte la maîtresse, il part avec elle après. Et quand la maîtresse revient en retard, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes, elle annonce aux enfants qu'elle ne sera plus là à partir de la fin du mois de mai. Et ça les bouleverse complètement. Mais ça les bouleverse parce que cette maîtresse, c'est quelqu'un de très particulier. C'est une femme qu'elles aiment pour des tas de raisons dont on aura l'occasion de parler. Et Emiliane n'a qu'une déchirure, c'est de savoir que sa maîtresse d'école ne viendra plus. Et le jour où sa maîtresse est inspectée, son père disparaît. Donc il y a la concomitance de deux disparitions. La disparition prévue de la maîtresse d'école, peut-être parce qu'elle dit « je ne serai peut-être pas avec vous à la fin du mois de mai ». Voilà, ce n'est pas encore bien clair. Mais il y a le père qui ne rentre pas. Et donc il y a un gouffre chez Emiliane parce que son père est quasiment tout pour elle. Elle adore son père et elle adore sa maîtresse. Et les deux personnes qu'elle adore le plus vont disparaître. C'est ça le tremblement pour Emiliane. Et au fur et à mesure, elle se rend compte de petites choses qui se passent, de petites choses inhabituelles. C'est vraiment très petit, c'est très, très impressionniste. Comment les ouvriers ne sont pas venus travailler, les transports en commun ne sont pas là aujourd'hui, tout le monde les attend, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, en fait, elle a deux questions à poser à son père. C'est où est passée ma maîtresse d'école? Et finalement, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Mais ça vient après.
Oui, il y a toute cette attente-là. Le livre m'a fait penser à un roman de Yannick Lahams, La couleur de l'aube, où on est comme ça la nuit, dans une famille aussi. Il y a une manifestation et on ne sait pas ce que sont devenus des êtres chers. Mercredi, on arrive dans la cour de l'école.
Mercredi, on arrive dans la cour de l'école. Notre maîtresse, Madame Ladal, nous aligne. On va monter plus tôt ce matin. Asseyez-vous, calmement. On grimpe au premier étage sans faire de bruit, on entre dans la classe, on s'installe, et puis deux personnes se donnent dans la porte. La directrice, avec sa perruque toute lisse qui glisse, et un blanc en costume. Le blanc serre la main de Madame Ladal et il nous dit « Ne vous occupez pas de moi, les enfants, je ne viens pas pour vous. » La directrice repart à reculons. « Vous avez vu ses petits cheveux crépus sous sa perruque ?» D'habitude, notre maîtresse nous annonce toujours les visiteurs. Demain, quelqu'un viendra, il a des choses à nous enseigner. Pour celui-ci, elle ne nous a pas prévenus. Il entre, mais lui, il n'a rien à nous apprendre. Il ne reste pas debout à côté d'elle pendant qu'on chuchote. D'habitude, c'est comme ça. On chuchote, on rit, et puis on se calme et on écoute la grande personne qui parle. On regarde tous les détails. Et après, on a encore des tas de choses à se dire à la récréation. Surtout des moqueries. Le blanc, lui, il s'assied au fond de la classe. On se retourne toutes pour le regarder. « Ne faites pas attention à moi. Je ne viens pas pour vous. Je viens pour votre maîtresse. » Les autres maîtresses passent devant nos persiennes avec leur classe. On voit qu'elles ralentissent. Elles regardent Madame Ladal. Madame Desravin fait un clin d'œil à notre maîtresse qui tremble un peu, mais qui sourit. Le monsieur prend le cahier de Marivonne, la reine des pattes de mouche. « Eh non, monsieur, pas mon cahier. » Marivonne dit ça en souriant. Elle sourit toujours, Marivonne. Elle s'efforce, vraiment. Elle s'efforce, mais elle n'arrive pas à discipliner sa plume. C'est ce que Madame Ladal dit. Marivonne écrase sa plume sur la page. Le bec s'écarte et se tord, s'accroche au papier. Marivonne y met les doigts. Elle décroche sa plume et essaie de la redresser. Elle a de l'encre partout, sur sa table, sur ses doigts, sur sa robe, sur ses joues, partout. On se moque d'elle, elle s'énerve, toujours la même chose, la pauvre. Marie-Vonne continue à sourire, mais le monsieur secoue la tête en regardant le cahier de la malheureuse. Un petit mouvement de la tête comme ça, de gauche à droite, de gauche à droite. Je vois qu'il est fâché, fâché, alors je prépare mon cahier, je me lève, je le lui tends et je lui dis « Monsieur, vous faites peur à Marie-Vonne. Émilienne, retournez à votre place. Pourquoi la maîtresse m'a vouvoyé ?» La classe continue. Ma maîtresse a un petit sourire, fier et courageux, un peu triste aussi. Nous, on répond gaiement, on a toutes les réponses, ces 32 gamines. Levez le doigt, les enfants, elle est parfaite, et nous, on est heureuses.
Alors ce n'est pas un roman historique. Émilienne, c'est la première rétive.
Oui. Émilienne, c'est la première rétive, et toute la classe d'Émilienne est rétive.
C'est une communauté qui se sent bien entre soi et oui. qui aime sa maîtresse. On n'est pas dans les problèmes de l'école d'aujourd'hui, où là, il y a des tensions.
Ouais, c'est bon, pas un peu idyllique. On ne parlera pas de l'école d'aujourd'hui, parce que j'y vais plus pour ça.
Vous n'y allez plus pour ça.
Non, mais l'école... Je suis prof en principal.
Ben oui, qu'est-ce que vous faites?
Je ne veux plus aller à l'école.
C'est vous la rétive.
C'est moi, je suis rétive. Non, mais cette maîtresse, elle est vraiment différente. C'est-à-dire que, déjà, d'abord, elle est tendre, elle est douce. Les maîtresses, les autres maîtresses sont, les enfants vont le dire, des marâtres. On ne veut pas aller en classe avec ces femmes parce que ce sont des marâtres. Elle ne les tape pas, elle leur explique les choses. Elle combat les toutes petites choses entre elles, les petits rejets, oh non, on ne fréquente pas Pauline parce qu'elle est trop pauvre. Ce que des enfants sont capables de faire. Et parallèlement à ça, elle leur ouvre un univers qui n'était pas ouvert jusque-là. Premièrement, c'est l'univers de leur pays. Elle les amène à la plage, on est en 67, elles vont en vacances, elles partent en chantant dans des autocars, voilà. Et puis la petite, elle est toute heureuse parce que c'est son père qui a fait la route de la plage des Amandiers. Donc elle a toujours un petit quelque chose à dire à sa maîtresse. Il y a ça, et puis ensuite, il y a le fait qu'elle leur parle de l'Afrique. Au moment où elle leur parle de l'Afrique, elle a changé quelque chose dans l'école. Quand on voit qu'aujourd'hui, on reparle de mettre la morale à l'école, elle a changé quelque chose d'important, c'est qu'elle dit « Je ne veux plus que les élèves entrent à l'école et se trouvent face à une phrase de morale pour la journée. » Donc, elle leur fait vivre la journée. Et la phrase de morale vient en conclusion de la journée comme quelque chose que les enfants doivent apprendre à analyser leur journée. Et ces phrases de morale sont des phrases qui sont tirées d'un très 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 vieux livre, les contes d'Amadou Kourouma, je crois, Kourouma. Et alors ce sont des phrases particulières. L'arbre ne croît qu'en prenant sa source, en allant puiser dans sa terre nourricière. Alors c'est quoi cette terre nourricière? Elle leur parle de l'Amérique qui est juste à côté, l'Amérique noire. C'est ça que l'inspecteur vient de voir dans ce cahier, une phrase de Malcolm X disant il faut traiter tout homme, quelle que soit sa couleur de peau, noire, rouge ou blanche. Bon, Malcolm X, vous apprenez Malcolm X aux enfants, etc. Mais les enfants n'apprennent pas ça, ne voient pas le caractère politique que ça peut avoir. Hein. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, elle leur a offert une bibliothèque. Donc dans la classe, il y a une bibliothèque, et ils s'échangent des livres, etc. Et donc ça a un enseignement tout à fait différent de celui des autres maîtresses. Et pour ça, elle l'adore. Et donc, le départ de la maîtresse... Il va y avoir deux grèves dans ce livre. Il y a la grève des ouvriers du bâtiment, mais il y a la grève des enfants. C'est-à-dire que les enfants disent, écoutez, si notre maîtresse n'est pas là, il n'y aura pas de classe aujourd'hui. Et donc, voilà, elles sont déjà effectivement rétives. Et bien sûr, j'imagine, moi, en tant qu'auteur, que ce qui va se passer autour d'elles, du point de vue historique, ne sera l'étincelle qui va venir rajouter quelque chose à ce bois déjà sec.
Cette école que vous décrivez, cette classe, c'est une école idéale, ça n'existe pas.
Non, mais non, j'aimerais bien que ça existe. Si ça existait, j'y retournerais. Non, ben, oh, il y a des profs formidables hein, qui font des choses comme ça. Peut-être que moi, si j'avais enseigné le français et non pas l'anglais, j'aurais fait ça. Je ne sais pas. Mais oui, c'est une école. C'est pas l'école qui est formidable, parce que le reste de l'école fonctionne normalement. La directrice est absolument affreuse, d'ailleurs. Hein. Mais cette maîtresse d'école dans sa classe est différente.
Oui, c'est pas l'école qui est formidable. C'est une personne, c'est une institutrice, c'est ces caractères-là que vous aimez. C'est pas le système, parce que le système, lui, dans son ensemble, est plutôt... on reconnaîtrait un système colonial.
Absolument. C'est un système, dans le livre en tout cas, qui essaie de se faire oublier. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, on a le sentiment qu'il ne serait pas là. C'est-à-dire que quand on lit le livre, on se dit, mais ma foi, ça se passe bien, ces enfants vont à l'école, ils apprennent des choses, les parents travaillent, le père est entrepreneur de bâtiment, la mère est chez elle, elle a peut-être même une servante, enfin tout a l'air d'aller assez bien. Et puis, ce qu'il y a, c'est que des petites choses nous montrent que le système est là. C'est-à-dire, et qu'au moment où il faudra que le système agisse, il agira, et il agira violemment. Et donc, il y a ces gendarmes avec lesquels on prend des pots. Dans les boutiques le soir, il y a ces gendarmes qui sont là, qui sont sur le balcon d'un voisin, mais qui surveillent cet homme en particulier qui est le mari de la maîtresse. Il y a l'église qui dit la maîtresse est visiblement la femme d'un homme pas tout à fait communiste, mais voilà, communiste mais pas au parti communiste exactement, c'est-à-dire que c'est un homme qui est peut-être au Parti communiste, mais déjà en rupture avec le Parti communiste, peut-être sur des choses précises, comme c'était le cas à l'époque, effectivement, en Guadeloupe. Donc, la maîtresse, elle donne des cours de catéchisme. Mais le prêtre lui dit, attendez, c'est quoi cet homme avec qui vous êtes marié, qui porte la barbe, c'est un castriste? Non, il ne porte pas la barbe. Il est peut-être castriste, elle ne le dit pas, mais voilà. Alors, il y a l'Église qui est là, qui donne sa loi. Il y a l'armée qui est là. Il y a l'école qui va frapper fort sur cette maîtresse aussi, pour ses libertés. Et tout ça a l'air de... Bon, ça va, attendez, c'est bon. Et puis, non, mais au moment où il faut frapper, ça frappe. Voilà.
Alors, on pourrait croire que c'est... Et vous l'avez dit, ce n'est pas que l'histoire d'Émilienne qui va attendre son père, mais toute l'attente est très... C'est ce qui vous a apparemment motivé, c'était de construire aussi un roman qui ménage cette attente. C'est pas simple en termes de dispositif romanesque que d'installer une attente par les yeux d'une petite fille. Est-ce que c'est ce qui vous a fait amener d'autres personnages? Comment sont venus les autres personnages, dont on n'a pas encore parlé d'ailleurs?
Non. Les autres personnages se sont imposés, ils font ce qu'ils veulent, ces personnages. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même quand ils n'ont pas la parole, ils se débrouillent pour la prendre. Les autres personnages se sont... En fait, disons que pour moi, Émilienne, c'est un rêve éveillé. Cette petite fille est un rêve éveillé. Elle est toujours dans un autre monde, elle est toujours ailleurs, elle est toujours... Elle est là, elle voit tout ce qui se passe autour d'elle, mais en même temps, elle rêve. Et dans ce rêve, elle a des tas de questions qu'elle pose, non pas à ceux qui sont juste autour d'elle, parce qu'ils n'ont pas le temps de lui répondre. Il y a toujours quelqu'un qui passe à côté et qui dit « Mais qu'est-ce que cet enfant fait là ?» Elle est toujours au mauvais endroit. Si elle est assise sur un petit banc dans sa cour, « Mais qu'est-ce que cet enfant fait là ?» Si elle est dans la cuisine, mais qu'est-ce que cet enfant fait là? Si elle est sur la place de la Victoire en plein milieu des émeutes, mais qu'est-ce que cet enfant fait là? C'est une phrase qui revient régulièrement. Donc elle n'a pas d'interlocuteur véritable. Elle est la dernière, ils sont 9 enfants, d'accord? Elle est la dernière et personne ne s'occupe d'elle. Donc il faut bien qu'elle trouve ses réponses quelque part et elle s'invente des personnages. Elle s'invente des personnages en réalité... Alors là, la construction des personnages vient d'une partie de roman que j'ai supprimée, parce qu'il faut savoir couper. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient, mais dans cette cour, il y avait toujours un moment où on racontait la mort de quelqu'un. Alors, dans sa cour, là, il y a toujours un moment où Voilà, c'est un pays où il y a énormément de coupures d'électricité. On est dans les années 60, hein, tout ça n'est pas bien stabilisé. Il y a énormément de coupures d'électricité. Et donc, il y a une espèce de monde qui se développe comme ça dans le noir, avec les lampes à pétrole, etc., etc. Et là, il y a toujours quelqu'un qui vient dire « Oh, il y a eu un accident sur l'allée du manoir. » Le type, il a eu la tête coupée. Voilà, c'est l'un des personnages. Il y a un type qui s'est... celui qu'on appelait le Macomère, un homosexuel, qui s'est pendu. Alors, tout le monde se précipite pour aller voir le pendu. Il y a la vieille Nono qui est morte dans sa tente bizarrement. Mais Émilie, elle entend tout ça. Donc, elle rassemble tous ces personnages. Alors, il y a le Macomère, il y a celui qui est mort sur l'allée du manoir, il y a celui qui... etc., etc. Et à tous ces gens, avec tous ces gens, elle fait un théâtre, en fait. Elle fait un univers. Et à ces gens, elle pose des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Ou elle imagine des réponses que ces gens lui donneraient. Sauf qu'à un moment, ils prennent corps.
Et d'ailleurs, on aurait très bien pu imaginer une pièce de théâtre avec ces personnages qui sont très bien typés. On arrive très facilement à s'en faire une représentation, et puis en plus il y a ce côté des personnages qui parlent, qui sont morts pourtant. Donc, pourquoi un roman ?
Sauf que c'est un roman.
Oui, alors, sauf que c'est un roman.
Non, c'est un roman parce que la différence pour moi avec le théâtre serait que les personnages seraient là immédiatement, face à nous, il y aurait une incarnation, une représentation, il y aurait de la chair là, et on ne voyage pas de la même façon avec les personnages. Là, pour moi, le roman, c'est choisir de faire un roman avec mes 67, c'est se dire, les gens vont être là, tout seuls, avec leur livre. Et cet événement qui est un événement historique. Bon, il y a eu des morts en mai 67. Oh, tu sais qu'il y a eu des morts en mai 67. Oh, il y a eu plein de morts en mai 67. Ah ben oui, il y a eu des événements en mai 67. Mais ça s'arrête là. Tous les gens qui sont morts, les vrais morts, on en parle peu. Alors, on connaît quatre morts, on connaît quatre. On connaît Jacques Nestor, on connaît un Glaude. Voilà, on a des noms comme ça. Il y a quatre, cinq noms. Mais les autres, on ne les connaît pas. Et donc, d'une certaine façon, il fallait arriver à être dans une proximité avec des personnages. Et le roman donne ça. C'est-à-dire que quand vous êtes enfermé, là, que vous êtes tout seul et que vous lisez, les personnages ne sont plus, deviennent extrêmement intimes. Et finalement, ce qui arrive aux personnages vous touche beaucoup plus, en tout cas moi, me dévaste beaucoup plus que si on m'avait raconté, il y a eu des événements en mai 67. Je raconte toujours ça, c'est par exemple sur la guerre de 39-45, sur les camps de concentration. Ok, les camps de concentration, ben oui, on en a entendu parler. J'ai lu des bouquins là-dessus, des histoires, j'ai lu des bouquins d'histoire, Mais un jour, on lit un livre, deux livres. Le premier, je lis L'écriture ou la vie de Georges Sandbrun. Et quand j'ai fini de lire L'écriture ou la vie de Georges Sandbrun, je ne peux plus rester dans mon corps. C'est-à-dire que mon corps est tellement douloureux. Et je pleure tellement, je monte et je redescends, je monte les escaliers et je redescends, mais parce que la maison me pèse, la maison et m'enferme, et mon corps m'enferme, et cette douleur est tellement forte que je n'ai qu'une envie, c'est de sortir de mon corps. La deuxième image autour de 39-45, c'est dans la biographie de Marguerite Duras, qui a été écrite par Laura Adler. Quand Marguerite Duras voit arriver... son mari Robert Antelme, et qu'elle est sur le balcon, tout le monde a été libéré et pas lui, il est l'un des derniers à rentrer après des mois, et elle est sur le palier et on lui dit il arrive, et elle le regarde monter l'escalier, et quand elle le voit monter l'escalier, elle pousse un hurlement et elle va s'enfermer dans son armoire, et elle ne peut pas sortir de son armoire pendant plusieurs heures. Ça, quand on lit ça, c'est qu'on est on est traversé par la souffrance d'un être humain vraiment. On n'est pas simplement dans du rapport historique. Et donc pour moi, le roman permettait de faire ça, de donner aux gens cette proximité avec cette petite fille, avec sa famille, avec l'ouvrier Guy Albert, qui, avec l'oncle qui meurt sur la place de la Victoire, qu'une balle perdue va tuer. Et on est tellement proche de ces gens que leur souffrance nous atteint davantage. Je crois, j'espère.
Absolument. On peut faire entrer donc la vieille Nono, peut-être.
Oui.
Page 41.
Il faut la présenter. Non, ou on en parle après?
On en parle après.
Alors, elle dit, bon, on va me dire, eh oui, ma chère, finis avec ça, etc. Moi qui suis là avec ma jambe en moins, j'ai pas envie d'arrêter d'en parler. Parce que moi, là, non seulement on m'a fichu enfant entre les pattes d'une vieille famille, mais en plus, ils voulaient me marier. Ils voulaient choisir qui je devais épouser. Je travaillais chez eux toute la journée et toute la nuit. Il fallait les entendre dire que je faisais partie de la famille et qu'est-ce qu'ils auraient fait sans moi et tout le bavardage habituel. Sauf que quand ils dormaient encore, moi, j'étais debout. Et quand j'allais me coucher le soir, eux, ils étaient déjà au lit depuis longtemps. En tout cas, l'école, là, c'était pas pour moi. Alors, que je vous raconte. Voici qu'un jour, mes patrons décident de me marier, quand je dis que rien n'avait changé. On avait déjà fait le coup à ma mère et à la mère de ma mère avant elle. J'avais 25 ans, et ils commençaient à trouver que je devenais vieille à marier. Vieille, ça me fait bien rire, quand on sait que je suis morte à 98 ans. Ils ne savaient pas que j'allais durer jusqu'à presque 100 ans. Bon, donc, ils m'amènent ce type, un vieux, qui avait déjà au moins 40 ans. Je ne peux pas dire son âge exact, mais il n'était pas frais. Ils nous ont invités à manger. Moi-même, je n'arrivais pas à croire pareille chose. J'avais rien à faire ce jour-là. Je n'ai pas cuisiné, je n'ai pas fait de ménage, rien. Ils ont loué quelqu'un d'autre. Je me demande même si ce n'était pas ma cousine qui était venue me remplacer. Ils m'ont dit de mettre ma robe blanche. La robe blanche qui avait appartenu à je ne sais qui et qu'on m'avait donnée pour finir de l'user. Le gars et moi, on a été nourris comme des coqs en pâte. Et après déjeuner, ils nous ont donné le droit d'aller marcher tout seuls dans la plantation. Du cacao. Une belle plantation de cacao que le cyclone de 28 a rasé comme les poils d'un cochon ébouillanté. Promenade dans la plantation comme une vraie dame et le type à mes côtés. On n'avait rien à se dire. Je ne l'avais jamais vu, il ne m'avait jamais vu. Pas trop laid le bouc, pas trop laid, mais vorace, intéressé. Il regardait les plantations des gens comme si ça allait lui appartenir un jour. Il regardait les mangues. Il y en avait des mangues cette année-là, à ne savoir que faire. Tellement qu'avant même que l'arbre ait fini de porter tous ses fruits, de nouvelles petites fleurs toutes blanches pointaient déjà au bout des branches. Le type là, le fiancé qu'il m'avait trouvé, voulait cueillir des mangues. J'ai dit non. Je trouvais qu'on était déjà trop redevables. Fallait garder un peu de dignité. Et puis à un moment, le fameux fiancé s'éloigne un peu. Moi, j'étais fatiguée avec tout ça, la robe blanche, les souliers, mon ventre trop plein, la marche sous le soleil. Je m'étais arrêtée, je m'étais assise et lui, il avait marché un petit peu. Pas loin, mais je ne le voyais plus. Et d'un seul coup, je me suis demandé où il était passé. Je ne savais pas combien de temps il avait disparu, moi. J'avais oublié le type. Je me lève, je le cherche et je le trouve caché derrière un arbre en train de manger un abricot. Un gros abricot à 2 graines. Franchement, nos abricots peuvent être gros et doux et sucrés. Le type, il venait de déjeuner. Entrée. Premier plat de poisson accompagné de pois tendres. Plat de veau, viande, riz et pâtes, dessert, sorbet et compagnie. Mais il avait peur de manquer. Toujours peur de manquer. Alors il a vu l'abricot dans l'arbre, bien gros, bien mûr, et il n'a pas réfléchi, il s'est caché pour le manger. Il avait peur de manquer. C'est ce que je me suis dit au début. Mais depuis, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que ces vieux blancs-là nous mettaient dans une situation qui faisait qu'on n'avait qu'un désir, celui d'en avoir plus que nos frères, d'être au-dessus d'eux, d'être prêt à les vendre une fois de plus pour un abricot à 2 graines. Je ne me voyais pas avec un type pareil toute ma vie, mais il aurait mangé le coco de mes yeux. Alors j'ai dit non, pas de mariage, j'ai pu assez servir de bonne à ces patrons-là. Je suis partie pour la pointe, j'ai quitté Bastère.